Et tous ces évêques ou ces patriarches sont un peu rivaux, et c'est Léon qui va s'imposer comme étant le premier d'entre eux, au point qu'on peut dire qu'à l'issue de cette aventure diplomatique et politique, Léon va se retrouver en effet le chef incontesté de la chrétienté. Ouais.
Quelle sera sa postérité? C'est ce que l'on va voir avec vous, Bernard Lecomte. Léon le Grand, pour autant, n'en a pas fini avec les barbares.
Regarde, Frisco, là-bas, c'est le territoire des Huns. Il faut être prudent.
Attila, il vient d'arriver un général romain.
Nous avons appris que l'empereur t'envoyait pour renouveler le pacte d'amitié. Mais bien singulière est l'attitude des Romains. Malgré notre traité d'alliance, ils gardent des otages. Et ils les obligent à se convertir au christianisme. Ils ont aussi violé les frontières de notre empire.
Mais ces accusations sont dénuées de sens. Nous avons toujours traité les otages avec un maximum d'égard. Plusieurs d'entre eux même ont épousé des Romaines. Plusieurs d'entre eux aussi ont embrassé la foi chrétienne, mais ils l'ont fait de leur propre gré, et je...
N'est-ce pas l'évêque de Margus qui a violé les tombes de nos rois?
Il y a bien longtemps.
Que m'importe le temps si le fait existe.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Le peplum Attila, le fléau de Dieu. Alors, en l'an 455, le roi des Vandales, Genséric, qui sera l'un des principaux acteurs de la chute de l'Empire romain d'Occident, marche à son tour sur Rome. Il s'est déjà emparé de l'Afrique, de la Corse, de la Sardaigne, de la Sicile. Il est à la tête d'une armée redoutable. Là aussi, Léon Ier, Bernard Lecomte, va jouer un rôle essentiel. Hein.
Oui, il va dissuader Genséric de raser la ville de Rome. Alors, il a moins de succès qu'avec Attila, parce que là, les Vandales vont quand même piller Rome. Mais ils vont observer un certain respect pour les hommes. Donc, il a quand même réussi à sauver l'essentiel. Mais en même temps, il faut dire que face à ces peuples-là, et face à ces chefs qui profitent de la chute de l'Empire romain, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'à l'époque, il n'y a plus personne en face. Il n'y a plus les divisions, il n'y a plus les légions romaines, etc. Et donc, les barbares en profitent et sont bientôt, ils vont à la fin du 5e siècle, début du 6e, on va les trouver absolument dans toute cette région. Et là, encore une fois, le pape a un rôle essentiel parce que c'est le pape qui va éviter le massacre absolu, quoi.
Vous le disiez, le rôle de Léon Ier dans le positionnement de l'Église est capital, mais peut-on dire qu'il évite, au fond, à l'Église de sombrer avec l'Empire romain?
Bien évidemment, oui. C'était d'ailleurs un très gros risque pour l'Église. Quand elle a été reconnue à la fin du IVe siècle comme la religion officielle de l'Empire, l'Église courait un risque énorme. Bien sûr, c'est qu'elle disparaisse avec l'Empire romain. On estime que l'Empire romain disparaît quelques années plus tard et que voilà, c'est la fin d'une histoire qui aura duré une dizaine de siècles. L'Église aurait très bien pu sombrer aussi, grâce à Léon et à un certain nombre d'autres évêques. Mais grâce à Léon le Grand, l'Église va rester justement un petit peu comme le rocher qui reste. Vous savez, ce rocher dont Jésus avait dit à Saint-Pierre, tu es le roc, sur ce rocher je bâtirai mon Église, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Eh bien, c'est ça le rocher, le roc de l'Église. À cette époque, c'est Léon le Grand qui est incontestablement le grand, grand personnage de cette époque.
Il est le 45e pape de l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui, c'est à partir de lui que l'Église, au fond, les plus hautes sphères de l'Église, jouent un rôle politique, c'est-à-dire que au-delà du rôle spirituel, c'est le rôle politique qui compte?
Oui, bien sûr, parce que entre le 5e siècle et le 10e siècle, si vous voulez, c'est une période qu'on connaît mal, parce que, si vous demandez aux petits écoliers belges ou français ce qui s'est passé au 7e ou au 8e siècle, ils vont avoir du mal. Mais cette période de constitution d'un nouveau monde, qui va aboutir, donc, pour simplifier, au Moyen-Âge, cette période-là, elle se construit autour de la seule autorité reconnue à peu près par tout le monde, bon gré mal gré, c'est l'autorité religieuse. Parce qu'en effet, les évêques vont se retrouver chefs spirituels. Alors, c'est très important à l'époque. La morale, la spiritualité, on rigole pas avec ça, parce que c'est la vie éternelle, c'est la vie au-delà de la mort, c'est beaucoup de choses qui font peur, y compris aux puissants. Mais surtout, cette autorité, elle est liée à des territoires. Et les papes vont bientôt gérer des véritables territoires, territoires pontificaux, d'ailleurs, on va appeler ça les états pontificaux, et et surtout à partir de Charlemagne, donc vous voyez, 4 siècles plus tard, quand Charlemagne est sacré empereur, ça se passe aussi entre chefs politiques. Et on dit, voilà, le pape gérera toute cette partie de l'Italie, le sud de la Gaule, etc., etc. Et il va y avoir un conflit permanent qui va durer des siècles et des siècles entre les chefs politiques, à partir de Charlemagne, ces gens-là redeviennent des grandes puissances, ouais. Et puis la puissance religieuse. Alors, au moment de Léon le Grand, on n'en est pas encore là, il n'y a plus à ce moment-là que la puissance religieuse, qui est une puissance politique, économique, on l'a vu, morale, et j'ajoute, et intellectuelle, parce que le pape Léon le Grand est resté aussi dans l'histoire comme un formidable producteur de thèses, d'écrits, de règles, de codes qui vont... là aussi, aider les chrétiens à être un peu unis sur ce qu'il faut faire, comment on dit la messe, qu'est-ce qui se passe à Pâques, à quelle date on fête Noël, que sais-je. Tout ce que l'Église va organiser, c'est un petit peu autour de Léon le Grand que ça va prendre corps. D'ailleurs, il a été désigné comme docteur de l'Église, vous savez, par les papes suivants, par les papes bien après, bien sûr. Et docteur de l'Église, c'est très important, parce que il n'y en a pas beaucoup des docteurs de l'Église, c'est ceux qui ont apporté un très très grand apport intellectuel et théologique à l'Église, et Léon le Grand en fait partie.
266 papes se sont succédés depuis Pierre, tous n'ont pas marqué l'histoire. Alors, est-ce que la papauté a connu, après Léon le Grand, Bernard Lecomte, des périodes où elle a sérieusement failli sombrer, tomber ?
Oui, bien sûr. Il y a une période, notamment à la fin du 9e, 10e siècle, vous savez, les historiens appellent cette période, tenez-vous bien, parce que le mot veut dire ce qu'il veut dire, la pornocratie pontificale. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est une période de relâchement complet des mœurs, de la morale, du bien, etc. Et à cette époque, en effet, la papauté est d'ailleurs méprisée. Elle va s'accompagner de vous savez, des antipapes. Il y avait des papes, et puis il y avait d'autres papes qui se désigné pape, ou bien qui était désigné pape par l'empereur germanique ou par le roi de France. Et ça va donner les papes d'Avignon. Vous savez qu'à une époque, au XIVe siècle, les papes vont s'installer, vont quitter Rome, vont s'installer à Avignon, au sud de la France. Donc il y a des périodes où vraiment le sort de l'Église ne tient qu'à un fil, ne tient, pour être clair, qu'à la qualité de ses hommes, qu'à la personnalité de ses chefs. Ça, c'est quand même important. Sans les papes, sans l'institution des papes, l'Église, probablement, aurait peut-être pas disparu, mais elle serait devenue quelque chose d'autre. Et puis alors après, il va y avoir, en effet, des très grands papes qui, eux, vont relancer l'Église, puisque après cette période un peu catastrophique au 9e siècle et au 10e siècle, il va y avoir là quelques papes, alors des papes germaniques, un pape français qui est très important, et les Français, les Auvergnats connaissent bien ce pape qui s'appelle Gerbert d'Aurillac, qui va être Sylvestre II, qui est resté dans l'histoire parce que c'est le pape de l'an 1000. C'est le pape qui a justement été pape en l'an 1000. C'est un très très grand personnage de cette époque, et par la suite on va avoir là encore quelques grands personnages qui vont relancer à chaque fois l'Église, jusqu'à ces papes modernes, qui sont tous des grandes personnalités. À partir du 19e siècle, l'Église a beaucoup de chance, parce que tous ces papes sont des grands hommes, que ce soit Pie VII, l'adversaire de Napoléon, que ce soit Léon XIII, que ce soit les grands papes du 20e siècle. L'Église a beaucoup de chance d'avoir ces papes-là, mais vous avez complètement raison, tout ça n'avait pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu, en effet, quelques périodes de l'histoire de l'Église où elle a failli sombrer.
Léon le Grand est le premier pape à être enterré au seuil de la basilique Saint-Pierre. Il meurt le 10 novembre 461. Son corps sera transféré à l'intérieur de la basilique en 688. Il y repose toujours d'ailleurs. Bernard Lecomte, vous êtes donc le conseiller, l'auteur des dossiers pédagogiques de cette série Un pape dans l'histoire. Celui-ci, ce tome-ci, Léon le Grand, défié Attila et de Richemont et Carloni, il est paru chez Glénat. Merci beaucoup de nous avoir apporté vos lumières aujourd'hui, Bernard Lecomte.
Merci et bonne journée.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver dans la collection 1000 jours dans l'histoire. À suivre sur la première, le 4e et avant-dernier épisode de François Truffaut, sa vie, son œuvre, avec Serge Toubiana et Jean-Louis Dupont. Et puis dans quelques secondes, nous allons aller visiter une fabrique de confettis.
Parlons business sur la première. Entrepreneur, investisseur ou simplement curieux, vous voulez connaître les nouvelles tendances dans les investissements, les activités économiques ou encore la vie en entreprise ? Ne manquez pas Parlons Business, du lundi au vendredi vers 13h15 sur la première et quand vous voulez sur RTBF Ovio. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change.
Dis Camille, ça c'est la chambre de ton fils? C'est toujours aussi bien rangé?
Oh, tu devrais voir la chambre du mien.
Bon, je viens avec toi.
Chez moi? Pour ranger?
Mais non, chez Camber.
Bonne idée Camille. Les architectes d'intérieur Camber vous aident à réaliser des rangements sur mesure qui s'adaptent à vos besoins. Profitez maintenant de l'action Batibo dans tous nos showrooms. Camber, more space for your place.
La première présente au 140, Peubleto. Bienvenue Bazier, un chorégraphe en vogue d'Afrique de l'Ouest, raconte ses rêves dans un solo autobiographique entre danse et vidéo. Peubleto, au 140, les 3, 4 et 5 mars, avec Charleroi Danse. Un jour dans l'histoire sur la première.
Laurent de Hausset.
Que serait la fête sans ses confettis? Que serait le carnaval sans ses myriades de petits ronds de couleur? Visite à la fabrique de Teux. Le directeur explique comment ces confettis sont fabriqués et quelle est la production de l'entreprise. Nous étions en 1962 avec Selim Sasson.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Oui monsieur, c'était une confetti, n'est-ce pas, que nous trouvons dans les comités de fête de ce magasin. Alors voici.
Et il y a longtemps que vous les fabriquez, ces confettis?
Ah, ben écoutez, j'ai repris cette affaire il n'y a pas énormément de temps, n'est-ce pas? Mais seulement, l'ancien propriétaire de cette affaire avait fait ça il y a environ 17-18 ans qu'il travaillait dans ce métier. Hein. Très bonne clientèle.
Vous en sortez combien par jour de confettis?
Avec une machine, nous fabriquons environ 700 à 800 kilos par jour.
Par mois?
Par mois, bah écoutez, ça dépend naturellement de la demande, nous stockons, par mois nous faisons quoi?
Allez, par an.
Par an, c'est très difficile à vous dire, étant donné que les demandes, n'est-ce pas, nous, avoir les festivités que nous avons dans la région et alors dans tout le pays, là, alors comment vais-je dire, l'année, nous ne savons pas effectivement vous dire 35, 40, 20, 25, 30, 35, 40 tonnes, c'est avoir.
40 tonnes.
Oui.
Ça suffit normalement à combien de carnavals, ça, 40 tonnes de confettis?
Écoutez, tout ça dépend naturellement de l'importance de la ville. Nous avons certains petits villages qui emploient par exemple 300-400 kilos. Alors là, l'importance des festivités, enfin, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'il faut choisir comme papier pour faire un beau confetti?
Ah, écoutez, il faut choisir le papier de premier choix, n'est-ce pas, comme nous employons ici régulièrement. Donc d'abord, pour faire un beau confetti, il faut des papiers fabriqués tout à fait spécialement pour les confettis.
Ah, madame, vous êtes la fondatrice, vous?
C'est-à-dire que j'ai travaillé avec le fondateur. Depuis 16 ans, je me suis occupée de confettis.
Ah, dites-moi un peu, madame, vous, pourquoi est-ce qu'on ne fabrique jamais des confettis carrés, ou rectangulaires, ou triangulaires, ou en forme de losange, etc.? On fait bien ça pour les pâtes alimentaires, alors.
Oui, mais seulement les confettis pointus risqueraient de blesser les gens. D'autant plus qu'il est nécessaire que les confettis aient un certain degré d'humidité, parce que s'ils sont trop secs, même étant ronds, ils arrivent à blesser les personnes qui les reçoivent à la figure.
Au point de vue couleur, là, il n'y a pas de limitation, madame.
Si, il est interdit de mélanger les couleurs, parce que si les couleurs étaient mélangées, on pourrait supposer qu'il s'agit de confettis qui ont été ramassés ou qui servent de réemploi.
Qu'il y a une demande croissante en Belgique?
Ah, certainement, certainement.
Oui. Ah oui. On jette donc de plus en plus de confettis.
De plus en plus
Belgique.
De confettis, oui, oui,
c'est ça. Merveilleux. Hein?
Ah,
hein?
C'est épatant, n'est-ce pas? Vous comprenez?
Nasce alegria, nasce sabor. Vão caput fazer ideia. Se na carnaval era amassar. Já me conchia São Vicente. Nasce alegria, nasce sabor. Vão caput fazer ideia. Se na carnaval era amassar. São Vicente é um brasileiro. Cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura. Catinga de carnaval. This amor a veces se iguala. São Vicente é um brasileiro cheio de alegria, cheio de cor.
Carnaval de São Vicente avec Cesaria Evora, les confettis à teux en 1962, c'est avec Selim Sasson, la Sonima vous aime. On vous retrouve juste après les informations de 14h, François Truffaut, sa vie, son œuvre, c'est à suivre.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Profel.
En tant qu'expert Profel, des questions sur le placement des portes et châssis, j'en entends. À propos du bon déroulement des travaux, par exemple.
Et s'il livre une mauvaise poignée de porte, ou bien qu'une vitre se brise pendant le placement, que se passera-t-il?
La réponse est simple. Quoi qu'il arrive, nous trouvons la solution et vous pouvez être certain que tout rentrera dans l'ordre. D'où notre promesse, tout est réglé avant de s'arrêter. Découvrez toutes nos promesses et profitez de nos conditions Batibo exceptionnelles.
Profel. Porte et châssis avec une promesse, la transparence.
Surfez vite sur profel.be.
Parce que c'est le soir et que vous venez de quitter le boulot pour retrouver votre famille, nous vous présentons la Volvo V60 comme une voiture familiale. Avec deux séries, des sièges chauffants plus confortables que le canapé du salon et un système audio haute performance avec 10 haut-parleurs pour s'éclater en famille sur vos hits préférés. La Volvo V60 Business Edition, votre voiture familiale idéale quand vous l'utilisez pas pour le boulot. Temporairement, à partir de 319€ par mois. Offre pour les professionnels. Plus d'infos sur volvocars.be.
Bleu, 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 saignant, à point brûlé.
On ne peut pas toujours compter sur ses qualités de chef, mais sur sa cuisine, oui. Parce que les cuisines méthode IKEA sont conçues pour souffrir. Toujours avec une garantie de 25 ans et maintenant avec 10% de réduction. IKEA, à chaque jour ses plaisirs.
Les jours Fnac, c'est jusqu'à moins 30% pour les adhérents jusqu'au 8 mars. Alors faut pas trop se poser de questions, sauf si vous en avez une tout à fait légitime.
Ben, j'hésite. Le plus adhérent, c'est la montre connectée ou le bracelet connecté? Parce que moi, j'ai un poignet ultra fin et ça glisse.
Oui, 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 on fait aussi des grosses réductions pour les poignets ultra fins.
Ah.
Fnac, libérez votre curiosité.
Offre soumise à condition.
Les informations vous sont présentées par Pierre-Yves Meugens.
Il est 14h. Bonjour à tous. Les petites menaces des Britanniques. Le gouvernement a menacé de claquer la porte des négociations post-Brexit dès juin si les progrès ne sont pas assez rapides. Le gouvernement britannique exclut l'alignement sur les règles communautaires voulues par l'Union européenne en échange d'un accord de libre-échange avantageux. Les négociations n'ont même pas encore commencé, qu'elles s'annoncent déjà tendues. Les Britanniques ont juste publié leur agenda ou le mandat qu'ils ont eu pour ces négociations. Elles doivent débuter lundi. La Commission européenne continue à se préparer à un échec de ces négociations et donc à se préparer à un no deal au cas où. Le procès d'Alain Matteau dans l'affaire Intradel commencera effectivement le 2 avril prochain avec l'instruction d'audience. Ce matin, le tribunal a fixé le calendrier. Alain Matteau est soupçonné d'avoir reçu 700 000 euros pour influencer le marché de la construction du nouvel incinérateur à Herstal. Les autres protagonistes du dossier ont déjà été condamnés. Alain Matteau, à l'époque, était parlementaire et son immunité n'avait pas été levée. Comme il ne l'est plus, son procès peut commencer. La première audience donc pour corruption est fixée au 2 avril prochain. L'hôtel italien dans lequel s'est réfugié l'écrivain Gabriel Matzneff a été perquisitionné. L'établissement est situé juste près de la frontière française. Les perquisitions ont eu lieu dans l'enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans qui vise cet écrivain français. Gabriel Matzneff, 83 ans, s'y est réfugié depuis le début de l'affaire. Il est soupçonné d'avoir emporté avec lui des archives utiles à l'enquête. Un sosie pour Vladimir Poutine. Ça ne s'invente pas. Le président russe avait un plan secret selon lequel il aurait eu des doubles chargé de le remplacer lors d'événements potentiellement dangereux au début des années 2000. Le projet n'a finalement jamais vu le jour. Poutine a préféré s'y opposer à l'époque. Un journaliste, pendant la conférence de presse, lui a demandé « Êtes-vous le vrai Poutine ?» Oui, lui a répondu le président russe lors d'une interview organisée pour ses 20 ans au pouvoir. La question faisait référence à ses nombreuses requêtes sur les moteurs de recherche en ligne qui demandent justement si Poutine avait ou non un sosie, une théorie du complot très répandue dont on connaît maintenant la réponse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bel après-midi.
Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.
Et je vous laisse avec Laurent Dehaussée pour la suite d'Un jour dans l'histoire.
Avec une grande page de l'histoire du cinéma, François Truffaut, Pierre Rive, retour de l'info à 15h.
La première,
13h15, 14h30,
Un jour dans l'histoire.
Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Nathalie Baye, il aimait les actrices, François Truffaut, sa vie, son œuvre, quatrième épisode, Serge Toubiana, Jean-Louis Dupont.
À son coup, je me suis rendu compte que je travaillais dans le quotidien finalement, et je m'en suis rendu compte encore plus en faisant le pianiste, puisque là j'avais choisi une chose américaine et que tout d'un coup j'avais devant moi un matériel que je détestais presque, les gangsters par exemple. Je me suis rendu compte que j'avais horreur des gangsters, et je m'en suis sorti pas par la parodie, je m'en suis sorti par une espèce de drôlerie.
François Truffaut, en 1965, à propos de Tirer sur le pianiste, son second long métrage et première adaptation d'un roman, en l'occurrence de David Goudis.
Certaines gens ont parlé de Tirer sur le pianiste comme d'un film humoristique et parodique, une parodie du cinéma américain. Or, moi, je déteste la parodie. Je dis évidemment parce que la parodie me semble une chose tout à fait anti-artistique. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait des artistes qui aiment la parodie. La parodie, c'est une chose qui appartient aux chansonniers, qui appartient à d'autres formes annexes du spectacle. Mais ce qui me guidait, c'était l'idée de pastiche respectueux, l'idée de « j'ai vu 1500 films américains, j'ai aimé dans tous ces films un climat, des choses qui leur ressemblent. Je vais maintenant, à la française, réutiliser ces choses et leur rendre un espèce d'hommage. » Alors, il y a l'idée, une légère idée d'ironie, jamais de